Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877-827-2346.
Dans ma petite ville, on était juste 4000, puis la rue principale s'appelait Saint-Cyril. La coop, le casse-bar, la caisse-pop, le croque-mort et le magasin général. Quand j'y retourne, ça me faisait mal. Il est tombé une bombe sa rue principale depuis qu'ils ont construit le centre d'achat.
Bon, Stéphane Plante est avec nous, producteur de contenu pour Cube Musique. Stéphane, bonjour.
Bonjour, Benoît.
Faites du bien un peu, un peu de musique. Pourquoi on entend les colocs?
Ben, c'est une chanson qui, la rue principale, qui fait partie de l'anthologie, je crois, ou le recueil 27 chansons qui ont marqué le Québec. Ça vient de sortir aux éditions Les Heures Bleues. C'est de Laurent Lavigne. Je pourrais qualifier ça d'anthologie express parce que c'est vraiment quelque chose qui se lit assez rapidement, ça se lit bien. C'est très documenté, il y a beaucoup de photographies. Puis avec les fêtes là, qui s'en viennent, des fois, on prend le temps de lire un peu plus. Où on verse un peu dans la nostalgie sans trop de culpabilité, ben je pense que c'est l'ouvrage parfait. Mais ça, c'est à la table du salon. J'allais dire quand la visite vient, mais cette année, ce sera peut-être pas, c'est pas ça qui va arriver. C'est certain que c'est un exercice risqué parce que choisir des chansons qui ont marqué le Québec, les fans finis de tel ou tel artiste pourront dire hey, mais comment ça, mon chouchou ne s'y retrouve pas. Fait que dans un exercice un peu laborieux, mais il s'en justifie d'ailleurs en introduction. Il dit il n'y aura pas de Daniel Bélanger ni de Richard Séguin parce qu'il dit ils ont eu de nombreux succès, mais non pas une chanson qui a assez marqué le Québec. C'est sûr que ça se discute. Moi, je lisais ça à un moment donné, je dis il n'y a pas de Jean Leloup non plus. Donc, OK.
Oh là, t'es malheureux, là.
Un petit peu. Un vrai.
OK. Alors, c'est quoi les 27 chansons, Stéphane?
Ben, ça part avec le Canadien errant de 1844. Et puis, il y a toutes sortes d'anecdotes là-dessus sur chaque chanson. C'est sûr que le choix ne nous étonne pas parce que t'as en deux joints de Charlebois, t'as quand les hommes vivront d'amour de Raymond Lévesque, ouais. Excusez-moi. Frédéric de Claude Léveillé. Mais il faut pas bouder son plaisir. Si la chanson est pas là, bon, OK, on passe à autre chose. On lit le contenu du livre. J'ai remarqué une petite erreur, par contre. On attribue l'écriture de « Mes blues passent plus dans la porte », les paroles à Pierre Harel plutôt que Pierre Huet.
Pierre Huet, ben oui.
Ça serait une petite correction à porter pour la prochaine édition. Mais justement, Antoine Gérin-Lajoie, il a écrit « Le Canadien errant » à 18 ans, en 1844. Moi, 18 ans, j'avais la misère à finir mes travaux au CGT. Je suis comme très étonné de ça. Aussi, on a vu Félix Leclerc a eu comme voisin de palier à Paris quand il habitait là quelques temps, un certain Django Reinhardt, le fameux guitariste Manouche, et il a donné des leçons de guitare à Félix. En plus, il trouvait une guitare qui lui convenait mieux. Il a dit ça, tu devrais jouer ça. Et plus, quelques années par la suite, on va voir Félix Leclerc, cette guitare italienne, une lutherie italienne, seulement Mario Macaferri. Donc, voilà pour la petite histoire. Mais il y a Raymond Lévesque, j'en parlais brièvement. Mais sa chanson, Quand les hommes vivront d'amour, avant de l'enregistrer lui-même, il l'avait proposé à Eddie Constantine, que je connaissais de nom seulement.
Ah! Mais Eddie Constantine, là, il jouait dans des films, des polars français. Il jouait
avec
toujours.
Lino Ventura. Oui,
c'est la génération de Lino Ventura. Toujours le tough, qui parlait peu, un peu balafré, un peu avec une sale gueule, mais qui couchait toutes les filles, évidemment, là. Tu sais, c'était convenu.
Comme s'il avait pas assez de succès au cinéma, bien enregistrer des chansons et enregistrer Quand les hommes vivront d'amour en français, mais aussi en allemand. Et la chanson va se frayer, la version allemande, ça sera la première chanson qui va jouer sur les radios allemandes quand il y aura la chute du mur de Berlin le 9 novembre 89.
Ah ouais.
Et j'ai pensé qu'on pouvait tous et toutes pratiquer notre allemand ensemble
ben oui,
avec la version allemande. Wenn Liebe auf der Welt regiert.
Ouais, bravo.
Wenn Liebe auf der Welt regiert, dann wird es endlich Frieden geben. Die Menschheit wird einmal gescheit. Vielleicht werde ich das noch erleben.
Ça coule moins, hein?
Ben, je me rends compte surtout que j'ai massacré le dernier mot du titre, mais bon.
On s'en est pas aperçu.
Oh, c'est gentil. Il y a Frédéric de Claude Léveillé qui se retrouve, bien sûr, dans l'anthologie. C'est drôle parce que Claude Léveillé, au moment d'écrire la chanson, il écrivait ça pour son frère. Il évoquait des souvenirs familiaux autour de la table et tout ça. Son frère s'appelle Jean. Et Jean, c'est une syllabe. Ça rentrait pas dans sa musique. Donc, il a décidé de l'appeler Frédéric, parce qu'il nomme Chopin dans la chanson aussi. Donc, le Frédéric en question, c'est son frère, à la rigueur, mais c'est en mémoire de Frédéric Chopin. Il y a aussi Gilles Vigneault et la chanson Mon pays. Gilles Vigneault a refusé que la pièce soit jouée à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de 2010 à Vancouver. On sait un peu pourquoi. C'est quand même une chanson fortement indépendantiste, tout ça. Et selon l'auteur, Laurent Lavigne, Jean Charest a insisté à plusieurs reprises auprès de Gilles Vigneault pour le faire changer d'idée, mais Gilles Vigneault a toujours refusé. Et ça a été un peu plus loin, qui a été chanté par Garou, finalement, à la place. On se rappellera de la performance. Peut-être pas pour les raisons que Garou voudrait, mais enfin.
Non.
La fameuse Suzanne de Leonard Cohen, c'était en fait la copine d'Armand Vaillancourt à l'époque, le célèbre sculpteur. Elle s'appelait Suzanne Verdal, une artiste elle aussi. Parce que des fois, on confond cette Suzanne-là avec une autre Suzanne que Cohen va fréquenter, mais un peu plus tard, en 69, Suzanne Elrod. Donc, c'est pour la petite anecdote. Toujours dans les années 60, ben, vers la fin, là, c'est Robert Charlebois, on s'en doutait, son Lindbergh a été censuré à cause des jurons, des sacs qu'on entend. Par contre, je sais pas si c'est une erreur d'impression, mais Lindbergh avait pas de H dans son titre, contrairement au célèbre aviateur. Et quand on demandait à Charlebois pourquoi il avait enlevé le H du titre de la chanson, il répondait, ben, les musiciens l'ont fumé. Donc, ça m'a fait un peu sourire. C'est ça. Et on parle aussi, et là, c'est un peu, on intègre ça dans le répertoire québécois, mais c'est un peu tiré par les cheveux. C'est Give Peace a Chance de John Lennon, qui, on le sait, est enregistré à Montréal, mais écrit à Montréal, inspiré à Montréal. Donc, on a décidé de l'intégrer au recueil. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est une séance improvisée. C'était un peu tout croche, cet enregistrement-là, au départ. Il y avait dans la foule, dans la chambre, Timothy Leary, Allen Ginsberg, le poète beatnik, il y avait la chanteuse Petula Clark. Et là, on a demandé à André Perry de ramener les bobines chez lui, de changer tout ça, que ça soit audible. Et quand il a écouté la première version, c'était cacophonique. Il dit, ça peut pas sortir, on n'entend rien. Les gens faisaient des percussions là, en se rappelant sur tout ce qui leur tombait sous la main. Donc, ça pouvait pas sortir comme ça. Il a isolé la voix de Lennon, le jeu de guitare, et il a demandé à Charlebois et Mouffe de venir faire des chœurs à la place pour enlever ceux qui faussaient épouvantablement sur la version originale.
On l'a, cette entrevue-là, quelque part dans les archives, là, depuis que je suis revenu à Cube Radio, là, on l'a fait, cette entrevue avec André Perry, et je l'ai faite aussi au Franc-Tireur. Puis il raconte à quel point, là, il se donne pas le crédit nécessaire, mais il a rescapé cette chanson-là, parce que vraiment, là, ça passait pas.
Ben, ce que Lennon a fait sur le 45 tours, il a mis les coordonnées du studio d'André Perry à l'époque.
Ouais.
Pour le mettre un peu sur la map. Et d'ailleurs, c'est dans les mêmes studios qu'ils vont enregistrer Jaune de Jean-Pierre Ferland. Donc, internationalement, je pourrais pas dire si ça a fait d'André Perry là, un grand réalisateur, producteur.
Ben oui, il a fait Cass Stevens et les Bee Gees. Et tu sais, il y a eu une run là, extraordinaire.
Oui, quand même.
Ben oui.
Il a fait ça avec Maureen Knight, il en a rencontré quelques autres aussi.
Ouais.
Il y a aussi, on parle de entre deux joints de Charlebois, ça c'est Pierre Bocquet qui a écrit le texte, mais semble-t-il qu'il a écrit ça en 30 minutes et ça s'est fait rapidement. Puis Charlebois en soupant, et sûrement un souper très arrosé avec Bourgault, c'est Charlebois qui a ajouté les fameux grouille-grouille, grouille-toi-le-cul qu'on entend dans le refrain, parce que ça, c'est plus musical, c'est plus rythmé.
Oui, oui.
Mais Laurent Lavigne a trouvé un texte de Bourgault qui avait été écrit 2 ans avant, mais un texte plus sérieux dans la revue Point de Mire, qui s'appelait « Entre deux joints », mais qui n'était pas du tout versifié là, comme une chanson. C'était un texte d'opinion de février 71. Beaucoup se demandaient si les jeunes allaient retourner dans les rues, se remettre à manifester, parce qu'ils trouvaient que les jeunes étaient un peu apathiques. Mais le titre de son texte était « Entre deux joints ». Donc, il y avait déjà le titre 2 ans avant, mais il n'y avait pas le reste des paroles. Il y a aussi la complainte du Fuck en Alaska qui, bien sûr, se retrouve dans le recueil. C'est une chanson qui existait avant même la formation « Beau dommage ». Puis même que Michel Rivard l'avait proposé à Donald Lautrec, qui avait refusé, Céline Lamaze et Gilles Latulippe. Alors ça, j'aurais tellement aimé entendre Gilles Latulippe chanter la complainte du Fuck en Alaska.
Céline Gomez, elle l'a refusé.
Céline Lamaze aussi.
Lamaze, ouais, c'est ça.
Bon. Et ils ont refusé, donc ils ont dit, ben OK, il faudrait fonder un groupe pour chanter nos propres chansons. Et c'est ce qui est arrivé.
Heureusement.
On apprend aussi un peu dans le même genre. Serge Fiori, avant de fonder Harmonium, il a accompagné les Gérolas sur scène. Ça, je savais pas du tout. Ben c'était un orchestre à son père. Son père faisait beaucoup d'événementiels avec son groupe de musique, mais ils ont accompagné les Girolda. Puis d'ailleurs, beau dommage, Harmonium, les deux groupes ont dû se tourner vers des étiquettes de disques internationales parce que les étiquettes québécoises ne voulaient pas sortir leurs premiers albums. On a tous les doigts, sûrement. Puis d'ailleurs, ben, en terminant, ben, Michel Rivard a avoué que la version acoustique de Revolution One des Beatles l'a inspiré à donner forme à son blues de la métropole. Et j'avoue qu'une fois qu'on le sait, on écoute le blues de la métropole et on ne peut pas s'empêcher de chanter Revolution. On peut se prêter à l'exercice en terminant, si tu veux, laisser jouer le blues de la métropole et chanter Revolution par-dessus.
Là, t'as Revolution One des Beatles, l'album blanc par-dessus, puis tu te dis, ça ressemble un peu, hein?
Ben, Rivard, en solo, même il y a 4 ou 5 ans, il faisait dans ses spectacles, il enchaînait les deux pièces. Donc, c'était un peu de l'autodérision, mais il se permettait un peu de.
Il rendait hommage.
Oui, ça n'est jamais caché que c'était une inspiration. Sauf là, c'était quand j'ai lu le livre. J'ai trouvé ça plus évident que jamais. J'ai fait, pourquoi pas? C'est une influence comme une autre. Voilà.
Parfait. Bon, ben, donc, c'est l'anthologie 27 chansons qui ont marqué le Québec de Laurent Lavigne. Ça vaut la peine?
Oui, absolument. C'est une belle lecture, là, dans les fêtes. Je dis la table du salon, mais vous pouvez amener ça n'importe où. Là. Ça te traîne très bien.
Parfait. Stéphane Plante de Cube Musique. Merci, Stéphane.
Merci, Benoît.
Salut.
Du Trisac. Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez du Trisac.